tout Marceau 2.0.
Changé, moi, là.
Tente comme un agneau.
Je te regarde aussi, c'est vrai que t'as changé, hein?
J'essaie d'y aller par étapes, t'sais.
Boulevard.
13h22, hey, on va vous parler du concours qui touche la station. Les gens virent fous avec ce concours-là. C'est le fameux touchdown dans ton salon.
Comprends.
Oui, on a déjà acheté les ailes de poulet. Elles sont en rabais, hein? Les épiceries, ils se préparent. Moi, je prends les ailes en rabais. Mes enfants m'appellent le cheap.
Pourquoi? Parce que
quand on va à l'épicerie à côté de chez nous, je dis tout le temps, les gars, prenez les étiquettes rouges, tout ce qui est rabais.
Puis tes gars t'appellent le cheap.
Ouais, ouais.
Et, ça fait quand même
rire. Ouais, pour passer la plus grosse game de foot de l'année, ben avec Boulevard, Stéréo Plus et Audiolite, on vous offre 3250$ d'électronique, la nouvelle télé Samsung 65 pouces qui vient de sortir cet automne, une barre de son ultra mince Samsung avec le sub. Ce que vous devez faire, parce que c'est la dernière semaine pour participer, vous allez sur le site blvd.fm, blvd.fm et vous donnez le mot du jour qui a été choisi par Denis, parce que Denis a choisi une table tournante. Donc, le mot du jour, c'est table tournante.
On est surpris qu'il ait choisi ça.
Et oui, parce qu'il veut écouter sa collection grandissante de vinyles.
Bien, surtout Pink Floyd dans le piton.
Donc, dévoilement du grand gagnant dans Rage Against le matin, ce vendredi à ne pas manquer. Donc, restez proche de votre téléphone, soyez disponible samedi parce qu'on livre ça directement chez vous avant la game de foot.
Tu sais, on parle des produits québécois, là. Oui. Tu parles des ailes de poulet, là. Tu devrais, là, arrête d'être fermé, sinon je t'attache au mur. Ils font maintenant, au Québec, là, des bâtonnettes d'humus frit, là.
Non.
C'est une des plus grandes révélations de l'industrie alimentaire, je te jure. Ils vendent ça à l'épicerie, c'est tellement bon. Ugh. Tu devrais essayer ça au Super Bowl.
Ils me redonneront jamais.
Arrête.
Les 20 dernières secondes.
C'est avec une sauce aigre douce à l'orange, la gang, garochez-vous, là. 100% québécois.
Ce que vous avez à retenir, c'est table tournante. DLVD.fm.
Ça y est pas mal.
David Chabot, mon chum David Chabot qui est en studio, qui a de l'air débordant d'énergie. Comment ça va, mon ami?
Ça va, toi?
Oui, ça va.
Je suis fier de toi, t'as fait ton concours. Bravo.
Oui, je m'améliore.
Hey, mon Dieu, même lui, il sait que t'es poche là-dedans.
Hey, je suis content que t'aies choisi le sujet cette semaine parce que c'est quelque chose que j'ai entendu parler dans les derniers jours, les dernières heures même. Ça se passe au Congo. Le Congo, il y a une guerre actuellement interne à l'intérieur du Congo où il y a eu énormément de gens tués. 773 personnes tuées. Plus de presque, je pense, on nous a dit quoi, 2880 blessés là, depuis le début du conflit. Tu vas nous expliquer qui est en conflit avec qui. Juste vous dire qu'on a des militaires canadiens. On n'en parle pas beaucoup dans l'actualité, là, mais il y a une quinzaine de militaires canadiens actuellement qui sont là-bas. Et pendant quelques heures, certains ont appelé leurs conjoints, conjointes pour dire « ça se peut qu'on ne se reparle plus jamais ». Là, maintenant, ils sont en sécurité. C'est la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle je peux vous en parler. Mais ils ont eu peur comme pas possible.
Ah ouais?
Ouais.
Celle-là, je ne l'avais pas vue, par exemple.
Ça n'a pas été dans les médias.
OK.
Faut juste jaser avec les gars du 22.
Channel. Oui, c'est ça. Écoute, tout ça, premièrement, c'est parce que ça ne me tentait pas de parler de Donald Trump. Là. Tout le monde parlait de ça. Puis moi-même, sur mon Facebook, j'ai posté souvent là-dessus. Je m'excuse d'avoir été un peu agressif. Pas agressif, mais multiplicateur de posts là-dessus. T'sais, c'est une situation qui est riche. Mais...
Non, moi, je suis contente que tu le fasses. Allez, ouais. Pour vrai, là, allez suivre David Chabot. C'est vraiment intéressant de voir cet angle-là. Il est important.
Ben, merci.
Non, c'est gentil. Parlons du Congo.
La semaine passée, j'ai rencontré le général Roméo Dallaire dans le cadre de mes fonctions
Une belle rencontre.
Dans la vraie vie. Ouais. Un homme tellement accessible, tu sais, puis il en a vécu d'autres dans la vie, là, mais tellement accessible, tellement gentil, puis il a un regard, ce gars-là, je sais pas si vous l'avez déjà croisé physiquement, là, mais à un moment donné, il est tombé dans la lune comme tout le monde, là, puis là, il m'a comme fixé dans les yeux, puis là, c'était vraiment Maurice Richard, là, j'étais comme quasiment paralysé. T'sais, fait que tu vois que c'est un gars qui a une intensité, puis tout, en tout cas, bref.
Mais il a du vécu, c'est ça.
C'est ça, puis là, on a parlé plein de choses, dont évidemment le génocide de 93-94 au Rwanda.
Son livre, c'est J'ai serré la main du diable,
exact.
Et juste incroyable.
Oui, c'est ça. Puis là, récemment, il y en a sorti un qui s'appelle La paix, qui est un peu dans l'optique de ne plus jamais répéter ce genre de génocide-là. Qu'est-ce que la planète doit faire pour s'assurer que ça n'arrive plus, t'sais? Donc là, tout ça pour dire qu'on a jasé avec, puis on est revenu sur les événements là, puis, du génocide au Rwanda. Pour tout le monde, ben, je pense que tout le monde se rappelle à peu près comment que ça s'est passé, mais grosso modo, la majorité au Rwanda, c'est les Hutus, puis après ça, il y avait les Tutsis. Les Tutsis, c'est la minorité. La colonie belge, en fait, originalement, au Rwanda, avait mis les Tutsis au pouvoir, puis les Hutus, qui étaient majoritaires, étaient plus dans des rôles agricoles, puis bon, de job un peu moins bien vus. Puis là, il y a eu comme une rébellion des Hutus extrémistes qui ont dit « Les Tutsis qui nous contrôlent, finalement, qui ont le pouvoir belge en arrière de nous autres, ça finit, on fait un génocide pour se débarrasser des Tutsis. » Donc ça s'est passé en 93-94. C'est une histoire qu'on a entendue un million de fois. ce qui s'est passé après ça, c'est que les extrémistes Hutus ont déménagé pour sortir du pays parce que là, évidemment, il y avait peur des représailles, même si c'était eux autres les génocidaires, parce que là, le pays devait se reconstruire. Sont allés notamment au Congo, qui est un pays voisin. Puis les extrémistes Hutus ont pris du pouvoir dans le Congo, puis ont commencé à gérer un peu la frontière, si tu veux, puis bosser un peu tout le monde. Là, ce qui s'est passé, c'est que le Congo, eux-mêmes, ils ont fait comme un petit peu, là, je veux dire, c'est chez nous ici pareil, mais comme l'Afrique, c'est, tu sais, il y a des frontières, mais c'est plus fluide, un peu comme, tu sais, on a beaucoup de débats justement avec Trump sur la frontière, mais là-bas, tu sais, les gens, c'est beaucoup plus fluide, l'interpays, tu sais, les frontières sont moins solides. Donc là, la minorité extrémiste Hutu a pris beaucoup de pouvoir dans la campagne, si tu veux, congolaise. Puis, récemment, ce qui s'est passé, puis pourquoi ça vient de péter, c'est que le gouvernement rwandais, qui est encore Tutsi, avec Paul Kagame, a dit « ça va faire, la frontière est instable, puis les Hutus essaient de prendre trop de pouvoir, même au Congo, puis nous autres, nos Tutsis, au Congo, parce qu'il y en a aussi, parce que les frontières sont fluides, sont à risque, puis il faut arrêter ça, donc on fait pas un génocide, là, on n'est pas à la même place, sauf que faut que ça arrête, puis il faut qu'on donne des droits humains équivalents à tout le monde. » Tu me suis?
Oui.
Donc là...
Mais est-ce que c'est le Rwanda qui a décidé, dans les dernières heures, d'envahir le Congo?
C'est le mouvement M23. Okay? Ça, c'est comme une espèce de... J'allais dire FLQ, c'est peut-être un peu mal choisi.
Donc,
là, mais...
y a-tu de la politique au travers de ça?
Oh, oui, beaucoup. C'est très, très ethnique et identitaire. Okay? Puis le M23, c'est un mouvement armé, c'est une milice là, qui dit « Je vais aller conquérir les territoires contrôlés par les Hutus extrémistes au Congo » pour assurer la protection des Tutsis, puis avoir une représentativité des Tutsis dans le gouvernement congolais. Okay? Là, c'est un peu compliqué parce que c'est pas de la politique qu'on touche à tous les jours, là, mais grosso modo, c'est une minorité, puis c'est une majorité, puis c'est un clash entre les deux pour avoir une saine représentation, puis éviter les extrêmes, puis la guerre, si tu veux. Mais là, finalement, c'est ça qui se passe, c'est que le M23 est parti en guerre, puis ont même conquis une ville quand même assez grande qui s'appelle Goma, là, au Congo. Puis là, ça a sacré le bordel dans la région parce que il y a des gens qui ont été déplacés, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, il y a un manque de nourriture. Fait que là, on retourne dans une situation précaire où faudrait intervenir, tu sais. Mais là, tu reviens dans un climat ou dans un territoire, je devrais dire, une région qui est fortement teintée par le génocide de 93 puis toute l'histoire du général Dallaire.
Ils se sont toujours mal reconstruits de ça aussi, là. Oui. On parle psychologiquement, physiquement, puis de façon aussi structurelle.
Oui. Fait que là, tu sais, dans le fond, l'entente là, au Rwanda, c'était de se dire « Hey, on essaie de mettre le génocide en arrière de nous, on repart à neuf, puis on va avoir une société où on peut pas changer le fait que c'est 80-20, là, 80% Hutu, puis 20% Tutsi, là, à quelques pourcentages près, c'est ça. On peut pas changer ça, mais il faut qu'on vive ensemble parce qu'on est dans le même territoire. » Ça, c'était l'entente, si tu veux, à la fin du génocide en 94. Puis maintenant, on n'est plus là parce que là, on recommence à revoir les mêmes tensions ethniques, mais là, on mélange le Congo là-dedans. Donc là... On en revient à la question, c'est quoi le rôle de l'ONU? C'est quoi le rôle des forces internationales? Si on avait un pays comme les États-Unis qui était beaucoup moins isolationniste, est-ce qu'il y aurait une intervention pour le maintien de la paix qui pourrait se faire?
Mais avec Trump, ça vient de changer la donne.
Ben, c'est ça.
Puis permettez-moi aussi de me questionner par rapport à l'impact de la Chine là, qui se développe beaucoup du côté de l'Afrique. C'est comme rendu mercantile. Là. Puis l'ONU, moi, j'aimerais beaucoup avoir des entrevues avec certains... termes de communication au sein de l'ONU, je me pose beaucoup de questions. Avec le temps, là, pas que je déplore leur travail, c'est juste que je me demande sur quelle base maintenant ils le font. Là. C'est bien des ressources ou tout ce qui est mercantile, l'argent qui passe avant, des fois, dans l'implantation de troupes sur le terrain. Comment ça se passe en interne? J'aurais des questionnements.
Oui, parce que il y a des gros sous là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'or au Congo, puis il y a des diamants, on le sait. Là. Donc là, il y a comme ça qui est en trame de fond. La Chine n'est pas du type à intervenir physiquement avec des soldats pour faire le maintien de la paix. Ils l'ont jamais fait, en tout cas. Peut-être qu'ils vont décider de le faire cette fois-là. Par contre, je suis d'accord avec toi que l'ONU, moi, je trouve qu'ils sont très bons pour des affaires comme l'UNICEF puis des programmes de vaccination en campagne. Ouais. Ils sont capables de faire ça quand c'est la paix.
Ils s'organisent bien dans ce genre de développement pacifique-là.
Mais quand ça tombe sur les conflits, là, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui prend le lead, si tu veux, qui décide. Puis là, ben,
le point 1, c'est de ne pas engager une guerre. Le point 1, c'est de ne pas engager de forces militaires au détriment de populations. Fait que quand tu veux garder le Pacifique dans tout ça, es-tu capable de t'implanter comme il faut? Puis, tu sais, retenir deux personnes qui veulent s'arracher la tête, là, vous avez déjà essayé peut-être dans une bagarre là, de le faire, là, mais l'ONU se positionne comme si c'était un enfant de 3 ans, deux personnes qui veulent s'arracher la tête.
Il y a 4000 soldats rwandais qui assistent ces civils-là qui veulent cleaner la place?
Oui, bien, c'est pas clair qui travaille pour qui là-dedans, parce que le gouvernement rwandais est outil, la milice M23 aussi, fait que là, mais la milice est comme à part du gouvernement, c'est un genre de Wagner, si tu veux, comme le groupe Wagner, là, en Russie. Ouais. Un peu la même chose que ça.
Écoute, il y a des exécutions sommaires qui sont faites, il y a des femmes qui se font violer, ça a toujours fait partie de leur guerre, c'est épouvantable.
Tu sais, on revit un peu la même saveur que 93-94, puis je le dis avec mauvais goût, je m'en excuse, là. Puis tu sais, la communauté internationale, là, il y a un principe qui s'appelle la responsabilité de protéger, OK? Parce que on s'est tous entendus il y a très longtemps avec le traité de Westphalie, là, puis là, excusez-moi, je fais de la science politique, mais dans les années 1800, je me souviens plus quoi, où est-ce que la planète s'est dit « Hey, j'interviendrai plus dans tes affaires politiques internes. On va arrêter de se faire des guerres de succession, des choses comme ça, comme dans le temps de Napoléon, puis avant ça. »
Ouais.
Excusez-moi, genre ta marche, je vais gérer la mienne, puis après ça, on se retrouvera quelque part avec des traités. Mais la responsabilité de protéger, ça va par-dessus ça, dans le fond, de dire il y a des humains à travers tout ça, puis quand il y a des civils qui sont à risque de se faire tuer ou d'avoir un génocide ou tout ça, bien, la communauté internationale a une certaine responsabilité de protéger les civils contre même leur propre gouvernement. Sauf que quand tu fais ça, il faut que tu interviennes. Si tu interviens, t'envoies quoi? Des forces armées. Puis là, on sait que les casques bleus, ça a été difficile, notamment au Rwanda. La Somalie aussi en 93, qui était tout juste avant le génocide du Rwanda, ça avait vraiment mal été. On connaît Black Hawk Down, le film, là, mais c'est un peu la trame de fond. Donc là, tout le monde est super frileux de faire des interventions pour le maintien de la paix. Sauf quand, ben, c'est des pays qui ont un peu plus d'affinité, si tu veux, européenne, puis au continent.
Tu sais, j'ai une pensée pour les soldats qui sont là-bas. Puis, tu sais, leur règle d'engagement, c'est qu'il faut que tu te fasses tirer pour répliquer. Ouais. Ben, c'est peu, s'ils me ratent pas au début, c'est ça que tu me dis, là. Tu sais, faut qu'ils me ratent pour que je puisse tirer. Ben, c'est complètement fou.
Puis, est-ce qu'ils ont assez de munitions? Parce que le général Dallaire, là, il avait pas assez de munitions. Non. Fait que même t'as un gun dans les mains, t'as pas de balle dedans, ça n'a pas grand-chose.
Ils ont carrément été abandonnés, eux autres.
Oui, absolument. Absolument.
Non, c'est une belle rencontre, général Roméo Dallaire. Puis, allez-vous le revoir ou c'était juste l'instant d'un moment? Parce que je sais qu'il a parlé avec William Trudel aussi. William qui a fait énormément de missions. Je pense qu'il était à Haïti aussi.
À Haïti,
pendant un certain temps. Je pense qu'il n'a pas été juste une fois. Là.
Non, il est allé, je pense, trois fois. C'est le policier canadien qui a fait le plus longtemps en Haïti dans des missions de maintien de la paix.
Comment tu te sentais entre les deux?
Ben, écoute, j'ai...
En même temps, c'est pas une bine, là.
Écoutez, suis un intellectuel.
Non, mais c'était... Sérieusement?
Si tu le dis, tu l'es plus.
Non, mais c'était ça pour vrai, là. Moi, je suis là, puis tu sais, moi, mes histoires, c'est « Hey, c'est-tu quoi, quand j'étais jeune, là, il y a un chum qui voulait voler un paquet de gomme, puis j'ai dit de pas le faire, tu sais. » Les autres sont comme « Hey, là, c'était la guerre là-bas, puis ça se tirait dessus, puis... »
David Chabot, toujours un plaisir.
Merci.
On se reparle la semaine prochaine. Merci d'être venu, mon ami.